France Culture.
Question d'islam par Alain Bensheer. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois. Le « encore une fois » souligne que nous leur avons consacré deux ou trois émissions précédentes. Nous allons parler des frères musulmans pour comprendre davantage. C'est plus l'intelligibilité de ce qui se dit et de ce qui se fait autour de cette organisation que j'ai plaisir à accueillir professeur Bernard Rougier. Bernard Rougier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris et Sorbonne Nouvelle, et vous êtes un fin connaisseur de cette organisation, et vous leur avez consacré une bonne partie de votre vie de chercheur, et vous connaissez, si j'ose dire, cette confrérie, non de l'intérieur, mais vous avez un regard bien acéré, aiguisé sur cette organisation. Si vous voulez bien, dans cette première partie, essayons un peu de planter le décor. De quoi s'agit-il et de qui s'agit-il au juste lorsqu'on parle des frères musulmans ?
Alors c'est d'abord une organisation égyptienne. Bon, on connaît à peu près son histoire, qui a été constituée en 1928 sur l'initiative d'un instituteur qui s'appelait Hassan al-Banna. Et très tôt, ce qui a et ce qui a caractérisé, si vous voulez, c'est dans un contexte où le califat avait été aboli par Mustafa Kemal en 1924, c'est, je crois, la nécessité de rétablir en quelque sorte une continuité symbolique après la fin de l'Empire ottoman. Et dans les objectifs, évidemment, de l'organisation, il y a cette idée de rétablir un État islamique. Et comme spécificité également, une certaine modernité dans la prédication. C'est-à-dire que Hassan al-Banna considérait qu'il fallait aller dans tous les lieux où il y avait du monde. Donc il a commencé sa prédication dans des cafés, dans des clubs sportifs, et pas seulement dans la mosquée. Et donc on a ce discours assez flou au fond, avec des slogans du type « le Coran est notre constitution ». Et une organisation
l'islam
politique.
L'islam est la solution.
L'islam huwa al-hal, l'islam est la solution. Et donc un programme assez vague en réalité derrière, au-delà de ces slogans, et une organisation extrêmement moderne, conçue à l'image des partis européens, que ce soit des partis communistes ou des partis fascistes, avec des cellules, dans un contexte extrêmement instable de l'Égypte de l'époque, avec une occupation britannique. Et donc il y a une thématique à la fois de rétablissement, on peut déjà contester le « ré » de la loi islamique, l'horizon de l'État islamique, la contestation de l'occupation britannique, la question palestinienne qui vient très vite se greffer dans le programme des frères musulmans, des organisations de masse, une organisation de jeunesse avec un service d'ordre, et très tôt, à partir de la fin des années 30, des soupçons de création d'une organisation secrète. Même si le mouvement participe aux élections, il est soupçonné très rapidement par le gouvernement égyptien de l'époque d'avoir des structures militaires et de mettre en place ce qu'ils vont faire après la Deuxième Guerre mondiale, des assassinats politiques. Donc il y a des ambivalences sur cette organisation qui va ensuite développer des branches dans les pays de la région, Syrie, et progressivement avoir ce programme à la fois transnational et créer un bureau international sur lequel, évidemment, il y aura beaucoup de spéculations. Qui détient réellement le pouvoir de décision? Est-ce que c'est le bureau international? Est-ce que ce sont les frères musulmans au niveau national? Et aujourd'hui, Pardon pour ce résumé à grands traits, parce que c'est une organisation qui a connu évidemment des périodes de répression sous Nasser, j'aurais dû en parler, la grande persécution à partir de 54, accusée d'avoir voulu assassiner Nasser. Les deux organisations, j'allais dire les officiers libres en 52 et les frères musulmans, préparaient l'un et l'autre un coup d'État contre Farouk. Et finalement, les officiers libres, dont certains étaient également membres de la confrérie des frères musulmans, on a dit également que Nasser connaissait bien, et c'était vrai, Hassan al-Banna, finalement, les officiers libres ont fait ce coup d'État avant les frères musulmans, pour les préempter en quelque sorte. Puis ensuite, les frères musulmans ont été autorisés lorsque tous les partis ont été interdits par l'Égypte de Nasser. Et en 54, après une tentative d'assassinat sur la personne du président, la répression s'est abattue sur les frères musulmans. Et il y a évidemment un symbole très important de cette période qui est Sayyid Qutb, qui a introduit cette différence qui est encore structurante entre les lois divines et les lois humaines étant déconsidérées, qui a dénoncé également le culte de la personnalité, en référence très claire à Nasser, et qui a été pendu en 66, qui a écrit un très vaste commentaire du Coran, dont, en quelque sorte, le manifeste a été extrait sous la forme d'un petit livre, « Jalons sur la piste »,« Ma'alim fit Tariq », qui est, en quelque sorte, le résumé du programme de violence ici, puisqu'il s'agit de mettre en place l'État islamique par la force contre tous ceux qui utilisent les lois positives, les lois occidentales, des lois qui ne tireraient pas leur légitimité de Dieu.
Bernard Rougier, si vous voulez bien, nous allons revenir sur cette présentation d'à peu près une quarantaine d'années, donc de 1928 à 66. Revenons, si vous voulez bien, au débat autour de cette décennie-là des années 20. En 1924, début mars, la Grande Assemblée nationale turque, la GANT, va voter l'abolition du califat. Mustafa Kemal Atatürk signe le décret trois jours plus tard, on est le 6 mars. Et là, ça donne lieu à un débat contradictoire. D'un côté, nous aurons quelqu'un comme Ali Abdelazir qui se réjouit, et d'autres intellectuels qui se réjouissent, qui se félicitent, qui avaient même regretté que ce fût aussi tardif, cette abolition, dès lors que le califat n'a aucune valeur sacrale. Et de l'autre côté, cela a été perçu comme un traumatisme terrible. Et donc, on pourrait dire que la réaction de ce jeune instituteur, Hassan al-Banna, participe de cette volonté de réparer et de répondre à ce traumatisme. Pourrait-on encore ajouter que des manigances du roi Fouad Ier de vouloir devenir calife à la place du calife, en dehors de la formule, de jouer un peu avec eux, parce que d'aucuns parmi les historiens disent c'était une aubaine de s'appuyer sur une structure aussi hiérarchisée telle que l'organisation des frères musulmans.
C'est certain qu'il y a cette question du califat, d'un calife arabe pouvant prendre la place du calife, entre guillemets, ottoman. Et c'est l'époque des grandes conférences islamiques, précisément avec cet enjeu. Et le roi Fouad ait pensé pour lui-même devenir le calife des Arabes, c'est une évidence. Et vous faites allusion à Ali Abdelrazak, qui était membre du Parti libéral et qui avait aussi comme intention, à travers son livre sur les fondements du pouvoir en islam, de empêcher cette possible évolution, parce que si le roi devenait le calife, il y avait un risque pour les libertés publiques et pour le libéralisme politique en Égypte. Donc il fallait absolument empêcher ça. Il est certain qu'il y a toute une dimension historique qui nous échappe un peu, des enjeux de pouvoir qui nous échappe un peu et qui montre que les frères musulmans ont été en effet une ressource pour le pouvoir monarchique égyptien à l'époque. Ça, c'est tout à fait clair. Et dans la triangulaire ensuite entre les Britanniques, le pouvoir monarchique et les frères musulmans et le parti Wafd, les frères ont toujours servi à essayer de minimiser, de diminuer l'influence du Wafd dans la vie politique de l'entre-deux-guerres. Donc cette organisation a été très tôt, en quelque sorte, familière avec des enjeux de pouvoir, des enjeux tactiques et des rapports très privilégiés avec le palais.
Maintenant, revenons à l'organisation elle-même. On dit que très tôt, ça a pris, peut-être pas suffisamment. On serait à 2000 membres au début des années 30. Et ce n'est qu'à la fin des années 30, avec presque une départementalisation, l'on aurait d'abord les mères musulmanes qui deviennent les sœurs musulmanes et le rôle d'une femme du nom de Zeynep El Ghazali. Là, la confrérie commence à prendre de l'importance.
Elle prend de l'importance, encore une fois, parce qu'elle est moderne, d'une certaine manière. Et c'est ce mélange entre un conservatisme religieux, une nostalgie du califat, et des méthodes de prédication qui vont au-delà du seul parti, de la seule organisation, et qui cherchent à s'implanter dans tous les espaces sociaux. L'importance donnée aux femmes, le rôle des camps de vacances, la formation des jeunes, des formes de scoutisme islamique qui sont mises en place. Toute cette modernité politique va faire précisément l'originalité de ce mouvement. Et on peut aussi considérer qu'il, dans sa vision de la loi religieuse, qu'il s'appuie presque sur une loi religieuse devenue un code Napoléon. C'est-à-dire que pour eux, la loi religieuse, c'est du droit positif, c'est une loi positive qui peut se transposer ici et maintenant dans l'organisation législative et qu'il suffit de mettre en place cette transposition pour en finir avec tous les malheurs du moment, l'occupation, la crise, le chômage, la crise étudiante, etc., la Palestine. Donc il y a cette idée d'une utopie à disposition et d'une méthode de prédication prenant en compte tous les enjeux de la vie quotidienne et resocialisant en quelque sorte des pans entiers de la société autour d'un projet qui se veut un projet total au fond. Et alors c'est pas une organisation totalitaire, ça serait ici un anachronisme, mais c'est une organisation qui cherche à prendre en compte tous les espaces de l'existence.
Un intégralisme.
Un intégralisme à la fois, d'ailleurs c'est dit dans un des congrès les plus importants en 1935 des frères musulmans au Caire, ça se veut être à la fois une entreprise économique, un groupe salafiste, un club sportif, une prédication. Vous savez, il y a un long catalogue, ce qui a fait dire rétrospectivement à des critiques, notamment à des penseurs arabes, que quand on a une définition de l'islam sous la forme d'un catalogue, on peut s'interroger sur l'identité propre de l'islam comme religion. Si l'islam, c'est à la fois la justice, le gouvernement, le droit, l'économie, l'objet finit par se diluer en quelque sorte, ce qui fait peser une grave, soupçon précisément sur la capacité de cette organisation à apporter et à mettre le label islam sur à peu près tous leurs projets, toutes leurs initiatives.
Oui. Indépendamment de l'anecdote connue, revue plusieurs fois sur Internet, le président Nasser, dans un premier temps, était prêt à composer la direction des frères musulmans. Et j'ai cru comprendre, je le dis sous votre contrôle, que ce qu'il avait rebuté, c'est le fait de vouloir, bien que l'approche soit positive et une construction humaine, de revenir à cette loi religieuse, et qui n'avait de religieux que le fait qu'elle soit inspirée de la révélation coranique. Et donc, il y a cette anecdote du voile où l'un des guides de cette organisation demande au président Nasser de voiler les femmes musulmanes, ce qui sous-entend qu'elles n'étaient pas voilées à ce moment-là. Et il lui rétorque que si toi, tu n'es pas capable, ou tu n'es pas fichu, si j'ose dire, d'appliquer le fichu à ta propre fille.
Oui.
Comment voudrais-tu que je le fasse pour 10 millions d'Égyptiennes ?
Oui, ce discours circule beaucoup et très connu. Alors par ailleurs, Nasser pouvait s'appuyer sur des milieux religieux qui n'étaient pas forcément frères musulmans, qui pouvaient davantage être salafistes à l'époque. Je pense que pour lui, il ne fallait pas qu'il y ait un pouvoir concurrent, organisé, autonome, quel qu'il soit. Donc c'est la raison pour laquelle, dans cette république autoritaire, socialiste et ce modèle de nationalisme arabe, qui a été mise en avant à la fois pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur dans le rétablissement de la dignité collective des Arabes à travers la nationalisation de la société du canal de Suez, et de la société universelle du canal de Suez, la compagnie, et pour le pire dans la mise en place d'un régime autoritaire, d'une police secrète, d'assassinats politiques, d'une certaine démagogie et du refus du pluralisme. Et donc ce sont ces deux dimensions qui caractérisent le nasserisme et évidemment il ne pouvait pas y avoir un pouvoir autonome à côté du pouvoir du Reis. Ce qui est intéressant aussi, quand on lit, il y a le grand livre qui était le livre de Mitchell, le premier grand livre sur l'histoire des frères musulmans, on voit que le hadith ne compte assez peu. Hassan al-Banna s'appuie beaucoup sur le Coran, n'a pas de valorisation particulière du hadith comme seconde source, en quelque sorte, de la loi, et que ces frères musulmans vont beaucoup évoluer et vont prendre aussi de plein fouet, comme tous les autres mouvements, j'allais dire ce que j'appelle la révolution salafiste, et faire beaucoup de concessions dans leur version beaucoup moderne, celle des années 90 et 2000, celle d'aujourd'hui, d'une certaine manière, au discours salafiste. Donc ils vont accepter de faire des concessions en termes de doctrine, être beaucoup plus souples. Et dans un document qui a été exhumé par le journal Le Point, on a l'Académie des Talents, qui est un texte de formation qui est donné dans le cadre de la famille, parce que ce qui caractérise, encore une fois, les frères, c'est leur hiérarchisation interne. Et donc la cellule de base, c'est la Usra, donc Usar au pluriel, les familles, et qui sont toute petite cellule en réalité de formation. Et dans le document de l'UOIF, donc l'ancien l'Union des organisations islamiques de France,
là
nous parlons de la France et des frères musulmans français, vous avez une formation où il y a des livres à lire d'une semaine à l'autre, et j'avais été frappé en lisant le document de voir des textes de grande sommité saoudienne que le militant devait lire pour la semaine suivante, entrecoupés de livres plus classiques dans la littérature des frères musulmans, à commencer par les livres de leur référence récemment décédée, Youssef al-Kardawi. Donc il y a ce mélange et ces concessions qui sont faites en termes de doctrine également et de reconnaissance du rôle du hadith dans la formation et la purification de la croyance, là qui est vraiment quelque chose qui est propre au salafisme, là qu'on trouve dans la version, j'allais dire moderne, des frères musulmans. Dans mon expérience, si je puis dire un mot sur mon expérience de jeune chercheur, quand je les ai vus pour la première fois, c'était lors de ma thèse que je faisais dans les camps palestiniens du Liban. Au départ, je me suis beaucoup intéressé à sans le savoir, j'étais dans une cellule d'Al-Qaïda, quasiment un groupe qui était relié à l'organisation transnationale. Et ils avaient des rapports locaux, ils ne pouvaient pas faire autrement, avec le représentant du Hamas, qui lui, alors autant j'étais, quand je faisais des entretiens avec les djihadistes, c'était très difficile, il y avait une pression vers la conversion, je sortais en sueur d'entre deux journées passées avec eux, parce qu'il y avait vraiment un climat très dur. Quand j'allais voir le représentant local des frères musulmans, il me recevait en cravate, il était très agréable, et la discussion devenait beaucoup plus... Il comprenait ce que c'était que la recherche universitaire, et la discussion était beaucoup plus urbaine, elle était beaucoup moins tendue, en quelque sorte. Mais il y avait quelque chose qui me paraissait frappant, c'était la manière dont toute cette dynamique islamiste, djihadiste dans ses franges les plus violentes, islamiste palestinien dans ses franges beaucoup plus politiques, était en train quand même, de l'intérieur, de détruire l'espace politique palestinien. Et en relisant, et ou plutôt en lisant des mémoires qui sortent progressivement des fondateurs du Hamas, pour le cas particulier de la Palestine, on voit que la décision de militariser le mouvement, qui était d'abord humanitaire, constitué de mosquées et d'œuvres de charité, à la fois en Cisjordanie et à Gaza, au début des années 80, c'est une décision régionale. Ça n'est pas une décision palestinienne. Et quand on s'intéresse sur le Hamas, on voit beaucoup mis en valeur le rôle du Cheikh Yassine. Mais en réalité, le Cheikh Yassine a militarisé le mouvement sur une initiative qui ne venait pas de lui. Et c'est cette ambiguïté, en quelque sorte, qui va expliquer, là aussi, cette façon dont l'islamisme et celui des frères musulmans palestiniens, donc le Hamas en l'occurrence, va ouvrir la scène palestinienne à d'autres forces, à d'autres pouvoirs, à d'autres États, et au fond, à l'intérieur de cet univers, détruire progressivement la capacité d'autonomie, les institutions politiques propres et le fonctionnement du politique, encore une fois, du politique autonome. C'est très frappant de voir que le Fatah, en quelque sorte, l'organisation de Yasser Arafat, a été la première victime d'une organisation dont l'agenda n'était pas forcément un agenda national. Et c'est cette ambiguïté toujours avec les Frères musulmans. Lorsqu'ils prennent le pouvoir en Égypte pour la première fois avec une élection libre en 2011, d'abord législative pendant l'automne, puis l'élection en juin 2012 de Mohamed Morsi, c'est leur agenda. Est-ce un agenda, leur programme, est-ce un agenda national, égyptien? Est-ce un agenda transnational qui prend en compte d'autres intérêts, d'autres États, le Qatar en particulier? Et ça, ça a été un soupçon qui leur a immédiatement, qui a été aussi utilisé pour des raisons de propagande à l'évidence, par le pouvoir égyptien, les militaires en particulier, qui ont essayé de mettre en doute l'allégeance nationale à l'Égypte des dirigeants frères musulmans. Et il y a toujours cette ambiguïté qui pèse sur une organisation qui a ses branches locales, mais qui a aussi sa dimension régionale, voire transnationale, qui met en jeu le processus de décision.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous nous donnons le temps de comprendre la genèse, les procédés, l'endoctrinement même de l'organisation Frères musulmans avec le professeur Bernard Rougier, professeur à l'université Paris Sorbonne Nouvelle et qui nous parle, si j'ose dire, Bernard Rougier, de l'intérieur, puisque vous avez connu l'organisation des Frères musulmans dans vos recherches. Vous avez évoqué deux figures tutélaires, l'un Seyed Qoutoub. Ce qui est étonnant dans son cas, c'est que dans un premier temps, c'était un homme gagné aux idées laïques, prévalant en Occident, et suite à un séjour aux États-Unis, il revient quasiment, je peux même enlever le quasiment, aigri contre la société occidentale américaine. Et cette transformation-là va le pousser à être un idéologue féroce.
Vous avez raison, mais je pense que la transformation, elle commence avant son voyage. Et que c'est une transformation aussi qui va toucher l'ensemble des intellectuels égyptiens de l'époque. Y compris Tawfiq al-Hakim, Taha Hussein, qui sont de plus en plus sensibles aux thématiques religieuses. Il y a une transformation, alors, ça a été dit par d'autres, et bien mieux que moi, de l'identité égyptienne. Au fond, cette identité était considérée quasiment comme européenne, méditerranéenne, par quelqu'un comme Taha Hussein, dans son livre « L'avenir de la culture en Égypte ». Et progressivement, ces grands représentants de l'intelligentsia libérale égyptienne vont quand même évoluer vers plus d'arabité et plus d'islam dans l'entre-deux-guerres. Et je pense que Seyed Qoutoub, qui est complètement dans ce milieu, qui est un ami de Taha Hussein, on a du mal à voir tellement sa figure a été transformée, évidemment, par les conditions de sa mort et de son œuvre ultérieure, à quel point il était dans ce milieu libéral intellectuel égyptien. Et ce milieu s'est déjà transformé à partir du milieu des années 30. Donc il y a une métamorphose dans la vision de soi, dans la perception du rôle de l'Égypte dans le monde arabe, dans sa dimension religieuse, qui opère. Et l'accélération de cette métamorphose va s'opérer dans ce voyage aux États-Unis, qui est complètement fou. Parce que c'est quand même les États-Unis d'Eisenhower, pas vraiment pour nous les États-Unis d'aujourd'hui, quand même un pays qui reste extrêmement conservateur, et qui va considérablement le choquer, à tel point qu'il va revenir transformé, et que cet homme, qui n'a pas fait d'études religieuses, va se mettre à... que presque comme un autodidacte, à faire son commentaire très vaste du Coran, qui reste aujourd'hui.
À l'ombre du Coran,
qui reste aujourd'hui. Alors Sayyed Qutb, j'en ai été très étonné aussi. Quand je reviens sur les références actuelles de la branche française des frères musulmans, et quand j'observe aussi en source ouverte, hein, vous avez des émissions La charia et la vie, etc., des héritiers aujourd'hui du Cheikh Al-Qardaoui, dans l'Union internationale des oulémas musulmans, donc une structure des frères musulmans établie au Qatar, Sayyed Qutb est toujours largement cité. Il est toujours considéré, assumé. Moi, je pensais naïvement qu'après la succession avec le nouveau Morshid dans les années 50 al-Hudaybi, que Sayyed Qutb allait être une référence un peu secondaire, voire occultée. Elle est aujourd'hui totalement assumée par la direction. Et là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a... Si les frères veulent convaincre de leur transformation, de leur évolution, de leur acceptation de l'ordre libéral, ils doivent évidemment faire un travail d'inventaire sur leurs propres sources. Or, le Sayyed Qutb est, encore une fois, mis en avant très régulièrement chez tous les grands intellectuels religieux, religieux de statut de la mouvance aujourd'hui.
Oui, j'ai cru comprendre, mais c'est vous qui connaissez les choses mieux que moi.
Sûrement
c'est
pas,
que, mais... certes, Sayyed Qutb reste une référence, et même la figure tutélaire qu'est Al-Qaradawi, mais leurs écrits et leur doctrine n'est pas appréhendé d'une manière acritique. C'est-à-dire que ça reste une référence, mais on essaye, eu égard sûrement aux coups de butoir, aux interdictions répétées et décrétées contre eux, on dit, bon, qu'est-ce qui a fait que dans ce matériau pêche encore pour une adaptabilité, une souplesse de maintenant?
J'ai l'impression, moi, que c'est au moment où il manque en réalité de personnalités fortes dans la direction, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est à la fois, ils ont une certaine dynamique organisationnelle, avec des impulsions qu'on pourra décrire, que le rapport décrit un petit peu, mais ils ont une crise...
Là, vous parlez du rapport...
Du rapport français, sur les frères musulmans, en France. Mais ils ont aussi une crise de leadership, dans un bon français, et j'ai observé que quand ils étaient, en quelque sorte, moins à l'aise en termes de personnalité charismatique, de décision, de gouvernement, en quelque sorte, ils revenaient sur des valeurs sûres, dont Sayyed Qutb. La mise en avant du djihad. Alors évidemment, la situation à Gaza facilite aussi cette mise en avant de Sayyed Qutb. Mais c'est intéressant de montrer aussi que ça reste une valeur sûre en quelque sorte en temps où il n'y a pas de direction forte. Youssef Al-Qaradawi avait sa propre vision des choses, mais quand il mettait en avant ce qui avait évidemment la faculté de beaucoup séduire les interlocuteurs, notamment occidentaux, ils mettent en avant la réforme, ou ils mettent en avant la voie moyenne, la loi Satya, le juste milieu. Le juste milieu, quand on lit Al-Qaradawi, c'est le juste milieu entre Daesh d'un côté, enfin, djihadisme violent, on va dire, et la laïcité à la française de l'autre, qui sont mis sur le même niveau. Et donc, il y a évidemment, au-delà des termes, et la réforme, si vous dites la réforme, on pense immédiatement à Descartes et au discours de la méthode, où Descartes prônait plutôt une réforme plutôt que la révolution.
Ou même quelqu'un comme Cesare Beccaria, le fait de ne pas juridiciser les références religieuses.
Absolument, et au contraire, une nécessité de revenir à un modèle de califat dont Ali Abdelrazak, que vous citiez au début, considérait que ça n'était pas islamique, mais l'œuvre des hommes est une œuvre de pouvoir, et que rien dans l'islam n'empêchait l'établissement d'un pouvoir séculier, libéral, etc. Donc il y a ce goût de l'ambiguïté. Et puis chez Kardawi également, des fatwas lors de la première intifada, enfin la seconde pour être plus exact, légitimant les opérations suicides contre des civils, en considérant que tous les Israéliens sont de toute façon des militaires en puissance. Vous voyez, donc il y a ici quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, de l'ambiguïté dans le rapport à la violence, dans le rapport aux sources constitutives du mouvement, qui ne sont pas réglées, dans le rapport aussi à la transparence. Puisqu'au fond, ce qui est reproché aussi aux frères musulmans, c'est d'avoir des structures clandestines, c'est de ne pas déclarer leur jeu, c'est d'avoir, évidemment, ça a été souvent dit, un double discours, c'est de profiter de façon très habile des attentats djihadistes qui peuvent avoir lieu ici et là, pour dire ensuite, vous voyez, si nous avions été mis en responsabilité pour gérer un espace social, cela ne serait pas arrivé. Donc c'est cette manière très habile dont ils prennent en compte, en quelque sorte, des excès de violence, tout en posant, quand ils sont installés quelque part, les éléments théologiques qui peuvent justifier des passages à la violence, qu'ils vont condamner, mais si vous voulez, ils vont condamner en ayant posé un champ au niveau local ou au niveau national ou au niveau transnational où on peut trouver un argumentaire pouvant justifier des passages à la violence. Donc ici, il y a toujours ces ambiguïtés qui n'ont pas vraiment été résolues. C'est à eux maintenant de trouver une façon de se rendre plus acceptable en faisant un droit d'inventaire sur leur propre histoire.
Si on prend l'exemple du cas égyptien post-2011, donc juste après la révolution de la place Tahrir, Morsi s'est présenté sur une liste d'un autre parti qui n'est pas celui des frères musulmans textuellement, mais apparenté bien entendu. Est-ce dû au fait que le parti, les frères musulmans ne pouvaient pas ou ne devaient pas présenter un candidat à cette qualité?
Absolument.
Ou est-ce que parce qu'il n'y avait pas eu encore une autorisation explicite?
C'était l'interdiction qui pesait sur les organisations proprement religieuses à avoir des candidats, dans mon souvenir, et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette création d'un parti politique, qui était, si mes souvenirs sont bons, Justice et Développement, qui avait été, là on ne le voyait pas, j'étais au Caire à l'époque, mais qui avait été, dont la campagne publicitaire, le marketing, avait été fait à Istanbul, avec l'aide du pouvoir d'Erdogan, dans la manière de faire campagne. Ce qui m'a frappé pendant cette période, c'était qu'il y ait un parti politique qui se détache de la confrérie, c'était à la fois une exigence constitutionnelle et c'était plutôt quelque chose de positif à l'époque. Ce qui a été très impressionnant, c'est que la dynamique révolutionnaire de la place Tahrir, de la place de la Révolution, a senti que les frères préféraient l'alliance avec les militaires dont ils pensaient pouvoir tirer des fruits au nom de la préservation de l'ordre établi. Et finalement, ce calcul s'est révélé désastreux. Un autre calcul qui s'est révélé désastreux, c'est le débat constitutionnel. Morsi pouvait se réinventer en figure nationale en essayant de faire pression sur l'élément salafiste, ce qu'on appelait à l'époque la prédication d'Alexandrie, qui faisait de la surenchère sur le rôle de la charia, de la loi religieuse, dans la production de la loi, et qui avait mis en avant l'existence d'un comité quasi constitutionnel, une sorte de conseil constitutionnel, qui aurait exercé une censure religieuse au nom d'une version positive de la charia sur toutes les lois votées. Et ça, les milieux dits libéraux se sont évidemment insurgés contre cette transformation qui pouvait évoluer vers une théocratie. Et Morsi s'est voulu, a préféré au fond respecter la dynamique du champ islamiste plutôt que de mettre toute son autorité pour mettre fin à ces surenchères des salafistes égyptiens. Et là, vraiment, il a manqué, il a commis la faute politique d'avoir oublié la dynamique révolutionnaire. Ça, c'était très tôt, dès 2011. Et puis, l'autre faute politique, c'est d'avoir insuffisamment pesé sur le débat constitutionnel, d'avoir été débordé par les salafistes, dans un climat où vous aviez à la fois cette réforme constitutionnelle et ces débats qui fuitaient tous les jours, avec une libéralisation de l'audiovisuel égyptien qui a fait que ce débat a été immédiatement un débat existentiel, dramatique, où chacun avait l'impression de jouer sa vie, son mode de vie, ses valeurs existentielles, sa liberté. Et donc les conditions quasiment de la guerre civile ont été constituées par cette superposition de la libéralisation du débat constitutionnel, de la libéralisation de l'audiovisuel et d'un débat constitutionnel qui n'a, dont le, évidemment, le secret, la confidentialité n'ont jamais été respectés et qui fuitaient tous les jours. Et un Morsi dépassé par la situation et incapable de en quelque sorte, de rétablir une notion de l'État et finalement qui a créé les conditions du coup d'État et des grandes manifestations qui ont eu lieu au Caire et du coup d'État de l'armée à l'été juillet 2013.
Vous avez parlé donc de ce déploiement transnational de l'organisation. Qu'en est-il, Bernard Rougier, de ces déclinaisons au Maroc avec le Parti de la Justice et du Développement, de la Dignité, pardon pour le D, à Narda en Tunisie, les liens plus ou moins lâches avec le MSP algérien, le Mouvement pour la Société de la Paix, et ailleurs? Ce sont des adaptations locales ou ce sont vraiment des liens organiques?
Ça, c'est une question sur laquelle on ne peut pas trancher. Il me semble que ce sont plutôt des adaptations locales. Ça dépend aussi fortement de la personnalité. Quelqu'un comme Ranouchi a une forte personnalité et peut décider de l'agenda tunisien. Il a même le même reproche qu'on a pu faire aux frères égyptiens. On l'a fait aux frères tunisiens, c'est-à-dire d'avoir sous-estimé des dynamiques djihadistes et d'avoir pas suffisamment fait régner l'ordre public, empêcher des assassinats, mettre fin à un climat qui pouvait être extrêmement dangereux, au fond de ne pas avoir maintenu une identité politique tunisienne ou insuffisamment, en dépit d'un engagement démocratique qui avait quand même été répété par Ranouchi à l'époque. Maroc, avec là aussi les conditions locales d'un pouvoir qui les a laissés gouverner, puis qui a repris les choses en main au niveau gouvernemental, une autre sensibilité très proche des frères musulmans, qui est l'Adel Walihsan, le mouvement justice et bienfaisance, du cher Yassine, l'autre cher Yassine, le Marocain cette fois-ci, qui a aussi une présence en France assez forte, sous différentes nominations, sous différents noms. Là, je dirais qu'il y a des déclinaisons nationales qui me semblent prévaloir. La grande structure transnationale, dans le cas qui nous occupe en Europe pour l'essentiel, c'est celle du Council of European Muslims, le fameux CEM, dont parle le rapport. Et ce conseil des musulmans européens me semble être une structure, là sur le coup, très organisée, avec une présidence, un personnage important sur lequel il n'y a rien dans la recherche. Je pense que la recherche est très en retard sur les frères musulmans, et notamment sur les frères musulmans au niveau européen, qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Abdallah Ben Mansour est une personnalité importante, et je me suis, moi, intéressé à sa trajectoire, et j'ai constaté que dans la presse, le dernier texte qui raconte un peu un entretien avec Abdallah Ben Mansour, c'était Henri Tinck, le chroniqueur du journal Le Monde, et j'ai pas trouvé beaucoup de choses dans la recherche universitaire. Quand on s'intéresse un peu au fonctionnement du Conseil des musulmans européens, on voit quand même qu'il y a une présidence active, avec des branches, la branche concernant les femmes, les convertis, branche sur les droits et les libertés publiques, branche sur la prédication, branche sur la jeunesse, et des impulsions qui viennent d'Istanbul et qui sont ensuite travaillées dans l'espace européen. Moderniser les contenus numériques, insister sur l'éducation de la famille, promouvoir la littérature pour la jeunesse. Donc il s'agit pas de rentrer dans le complotisme, mais de voir quand même une organisation structurée au niveau européen qui a ses relais dans de très nombreuses mosquées, qui a ses institutions spécialisées, ses institutions de contrôle, une banque, et qui présente tellement une galaxie d'institutions et d'organisations tellement structuré qu'on peut même faire carrière à l'intérieur des frères. Il y a des trajectoires. Vous pouvez être à Europe Trust, la banque des frères musulmans pendant plusieurs années, passer ensuite au FEMISO, l'organisation de jeunesse et d'étudiantes établie à Bruxelles, ensuite rentrer dans une organisation nationale, ensuite en sortir pour travailler dans un autre à la présidence exécutive. Vous voyez, au fond, vous pouvez faire carrière. Et vous voyez beaucoup de frères, de fils et de filles d'eux à l'intérieur du mouvement. Donc il y a cette capacité organisationnelle. Le rapport avait souligné une certaine perte de vitesse au Moyen-Orient. Bon, là, on ne sait pas ce qui se passe vraiment en Égypte, hein, s'ils sont en train de se restructurer dans la clandestinité ou si le mouvement est totalement désorganisé. Mais c'est vrai que sur le plan européen, avec un conseil des imams qui fait venir les imams dans les Balkans, des rencontres qui ont lieu et qui sont les moments, si vous voulez, d'interaction entre cette structure, l'Union internationale des oulémas, donc en fait, les grands oulémas de la mouvance, Didou et d'autres, et qui rencontrent en Bosnie ou à Istanbul des imams européens, et on définit en quelque sorte un ordre de priorité à charge pour les imams en fonction dans les différents États, de mettre en place ce qui leur a été dit. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la vision autoritaire et transmise d'un enseignement à l'intérieur d'un organigramme qui est conçu de façon assez hiérarchisée. Donc tout ça existe, si vous voulez. Le reproche qu'on peut faire, un des reproches principaux, c'est de fixer en quelque sorte une seule interprétation. Que les frères musulmans considèrent par exemple que le verset ou la sourate 24, verset 30-31, justifie le port du voile sur la tête, ils peuvent tenir cette position à travers une interprétation du terme khimar, donc le tissu, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais ils doivent dire que c'est une interprétation qui n'interdit pas d'autres interprétations. Au fond, l'islam, comme le judaïsme, est une religion de l'interprétation, de la lecture, et qui fait honneur à l'intelligence humaine en donnant cette capacité aux croyants de lire un texte à différents niveaux et d'en tirer des significations à différents niveaux. Quand une organisation prétend fixer une seule interprétation, elle impose une violence aux croyants. Elle en empêche la liberté. Elle en supprime une partie de la liberté et au profit d'une seule interprétation fixée de manière autoritaire. Et je crois que c'est ça sur lequel les musulmans qui ne sont pas membres de la confrérie doivent réagir par rapport à des tentatives d'OPA sur le sens, si j'ose dire, ou de coup de force sur la signification d'un texte qui se laisse lire, interpréter, et dont ça a même été le rôle très riche de la jurisprudence depuis 1400 ans. Enfin, et donc une organisation moderne qui fixe l'interprétation fait violence aux croyants.
Qu'en est-il de la proto-histoire de l'implantation en Europe et puis par la suite on le verra en France? Cela remonte au centre islamique de Genève et avec Saïd Ramadan, où il y avait quelque chose avant. Qu'en est-il du cas proprement français?
Alors, à mon sens, c'est Saïd Ramadan qui joue un rôle très important à la fois en Allemagne et en Suisse.
Saïd Ramadan étant le gendre du fondateur Hassan
Al-Banna. Absolument, et le père de Hani Ramadan et de Tariq Ramadan. Son rôle a été pas mal documenté par la recherche. Rôle important dans le cadre de la guerre froide, rôle dans l'instrumentalisation, mais ça, ils n'ont pas été les seuls, par l'intelligence américaine au sens
technique. Il a été reçu par Eisenhower.
Oui, bien entendu, et utilisé, mais ça aussi, des intellectuels français libéraux, des revues, ça faisait partie du programme culturel de la CIA à l'époque pour lutter contre l'influence communiste en Europe de l'Ouest, et utilisé tous les arguments, y compris l'islam, comme arme à retourner contre le matérialisme historique des soviétiques. Donc il s'est largement associé à cette politique, il en a tiré les fruits. Donc je pense que c'est l'origine historique de leur implantation en Europe. Ensuite, il y a eu, évidemment, l'Union des organisations musulmanes, l'UOIF, Union des organisations musulmanes en France, qui était vraiment chargée de d'unifier les efforts des jeunes et des moins jeunes pour prendre le pouvoir au Maghreb et dans le monde arabe. Et puis, la grande métamorphose s'est opérée au milieu des années 80. L'Europe est devenue une terre de prédication, fait partie du Dar al-Islam. Et là, l'attitude a changé et c'est la fonction des frères musulmans, je pense, jusqu'à aujourd'hui, est de prendre le pouvoir sur les musulmans européens, au sens où les constituer comme collectif, leur donner des structures représentatives, se poser vis-à-vis des pouvoirs publics comme les représentants quasi exclusifs de l'expression musulmane en Europe. Et donc, c'est constituer un mouvement social structuré autour d'un réseau associatif très dense, de mosquées, de personnalités, de revues, de prédications, de thématiques, d'agendas, etc. Et de se constituer quasiment comme un lobby pour passer des alliances, rentrer dans le champ municipal dans un premier temps, avec un espoir de se constituer peut-être dans le champ national. Et à mon sens, c'est ce que j'utilise un peu cet argument, là où ils représentent quand même une dynamique qui est totalement contraire à la culture politique française. C'est-à-dire la culture politique française essaie, au moins depuis la Révolution, de dépolitiser les appartenances religieuses. Et là, on a un mouvement qui veut repolitiser, en quelque sorte, l'appartenance religieuse musulmane. Et c'est ça qui provoque, en quelque sorte, cette suspicion, encore une fois, vis-à-vis d'une partie du monde politique, des intellectuels, de la population en France. Cette façon de politiser l'appartenance rappelle de très mauvais souvenirs dans l'histoire. La dernière fois, ce qu'on a politisé à ce point les appartenances, c'était les guerres de religion. Et là, dans un projet politique, même s'il peut être en panne, même s'il n'est pas satisfaisant, qui est fondé sur l'émancipation individuelle, à la limite la politisation des appartenances sociales et la dépolitisation des appartenances religieuses, on a le contraire avec la déclinaison actuelle des frères musulmans. Et la grande affaire qui les a lancés, évidemment, c'est l'affaire du voile à Creil en 89, où ils ont manifestement joué un rôle dans la création de cette polémique qui a tant fait parler d'elle à l'époque.
Bien. Pour pouvoir interdire une organisation, il faut qu'elle se déclare comme telle. Le cas de la Jordanie, de l'Autriche, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Yémen, de la Syrie, qui les ont interdits, peut-être parce qu'à ce moment-là, on avait une organisation déclarée urbi et orbi, mettant le cas. Nous n'avons pas la même chose en France, où on a une association qui se dit textuellement « frères musulmans ». Et dans ce cas, comment voyez-vous une interdiction éventuelle ? À ma connaissance, lorsqu'il y avait une liste électorale sur laquelle il y avait le mot « musulman », ça n'avait recueilli que 0,24%, quelque chose de cet ordre. Et comment cette politisation de l'appartenance confessionnelle apparaît-elle ?
Alors, c'est très subtil. Lors de la dernière élection, alors je l'ai superficiellement étudié, mais j'ai cherché quand même à avoir quelques... Il faut avoir des points d'ancrage pour comprendre dans certaines communes de l'Île-de-France. Évidemment, il n'y a pas de liste communautaire. C'est très grossier. Ce sont des acteurs intelligents qui ne se disent pas facilement frères musulmans, parce que l'une des consignes, quasiment, c'est de ne jamais dire que vous êtes frère musulman. Donc, c'est très rare de rencontrer un intellectuel qui dit « je suis frère musulman ». Il ne va éviter à tout prix. Il dira qu'il est membre de Musulmans de France, que c'est une association autonome, indépendante, qui n'ont rien à voir avec les frères musulmans. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Mais ils vont le dire. Là aussi, on le sait, donc il faut dire les choses. Au niveau local, en revanche, il y a, avec beaucoup d'intelligence, des mécanismes de clientélisme à peu près dans tous les partis, souvent. Plus à gauche, souvent, mais pas seulement, également à droite. De représentants du tissu associatif, l'association des musulmans de telle ou telle commune, et qui va demander ensuite des comptes. Pour le cas d'Aubervilliers, par exemple, en 2008, vous aviez tous les candidats à l'élection municipale sont passés à la mosquée. c'était la mosquée de la fraternité, pour dire en gros quel était leur programme pour les musulmans. Et à partir de là, le tissu associatif local donnait des consignes de vote. Avec précaution, éventuellement, en ayant aussi des représentants dans plusieurs listes. Voilà, ça c'est une manière de peser sur le champ municipal dans des élections qui peuvent se jouer à 200-300 voix. Mais c'est complètement avoué comme pratique. Hassan Iqiyoussen, qui avait fait l'objet d'une expulsion un peu rocambolesque, l'avait dit dans l'une de ses conférences. Il avait dit « Allez voir le maire et dites-lui, je peux vous mettre... » Il avait dit 803, je ne sais pas pourquoi il avait sorti, je crois, 800 quelque chose, voix, si vous nous obtenez en échange tel ou tel avantage matériel ou locaux. Et donc c'est comme ça qu'il cherche à peser sur le rapport de force. Sur une seule enjeu, qui est, vous savez, on appelle ça en sciences politiques le single vote issue, donc le vote à enjeu unique, qui est déjà en soi une régression. On ne peut pas voter à partir d'une seule préoccupation sans voir l'ensemble du programme d'un candidat. Donc ça se passe de cette façon-là et ça se repassera encore plus de cette façon-là, puisqu'il y a l'événement, d'après moi, qui est un événement important, c'est la grande manifestation du 10 novembre 2019, à laquelle j'ai participé comme observateur et qui était le moment de l'alliance avec un parti important du spectre politique, la France insoumise. Et donc à partir de là, vous avez ce que dans le jargon des sciences politiques on appelle la structure des opportunités politiques, c'est-à-dire que dans la définition d'un mouvement social, il faut qu'il y ait à la fois un tissu social extrêmement dense, une communication entre les différents associations qui forment le mouvement, une capacité à formuler en termes politiques et symboliques les enjeux, là c'est l'idée, les musulmans sont persécutés, l'islamophobie d'État, etc. Et puis il y a l'alliance avec un acteur du système politique. Et c'est ça ce qu'on appelle le jargon structure des opportunités politiques. Et quand il y a toutes ces caractéristiques, vous avez un mouvement social. Et là, le mouvement social est puissant. Et le risque, si vous voulez, c'est qu'avec cette alliance politique et cette reconnaissance politique, il y ait en quelque sorte une pression supplémentaire qui s'exerce sur nos compatriotes musulmans, avec une référence qui finit par être acceptée au moins localement, voire nationalement, et qui rend encore plus difficile l'existence d'un pluralisme qui doit exister chez les musulmans, comme il existe chez les catholiques, etc.
Il ne reste que très peu de temps et le temps passe inexorablement. Et avec vous, Bernard Rougier, j'ai cette dernière question. Qu'en est-il de certaines figures intellectuelles? Je pense particulièrement au professeur Hamidoullah. On peut dire que c'est un conservateur, il a une vision bien particulière de l'islam. Mais d'aucuns disent qu'il fut frère musulman. Pourtant, il était chercheur au CNRS de 54 à 78 du siècle écoulé, avec la caution de Louis Massignon, d'Henri Laouste, de William Marsay, alors professeur au Collège de France, et après enquête du général Pierre Rondeau, le père de Philippe Rondeau. Qu'en est-il de ce cas précis?
Alors ici, je peux avouer mon ignorance modeste, je n'en sais rien. On a dit en effet qu'il en était proche. Ici, je ne suis pas compétent pour en juger. Khaled, vous m'excusez de finir sur cette note d'ignorance. Assumée.
Vous savez, un vieil adage qui dit quand on a ce sentiment-là, c'est qu'on va vers la perfection. Et c'est le cas, vous nous en avez parlé en tout cas tranquillement d'un sujet qui enflamme les médias d'une manière générale et certaines plateformes. Nous vous en savons gré. Je suis sûr que les auditeurs vous seront reconnaissants. Et chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Et nous nous sommes dit que nous allons prendre le temps avec celui qui connaît en tout cas cette organisation et qu'il l'a approché dans le cadre de ses recherches, le professeur Bernard Rougier. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son était assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus. et la réalisation par l'ami François Connac.